Bonjour Jean-Louis Debray.
Bonjour.
Bienvenue dans ces matins du samedi.
Merci.
Homme politique parmi nos plus illustres, et ce n'est pas pour paraphraser votre dernier ouvrage, homme d'État parmi vos très nombreuses fonctions. On peut dire que vous avez été ministre de l'Intérieur de 95 à 97, président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007, président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016. Vous êtes également l'auteur de très nombreux ouvrages historiques et politiques. Le dernier vient tout juste de paraître aux éditions Albin Michel. Il s'intitule « Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France ». Nous en parlerons tout à l'heure après la revue de presse de 8h30. Mais avant de parler d'histoire, on va faire les choses dans l'autre sens. On va parler du présent, si vous le voulez bien, même si vous n'aimez pas trop commenter l'actualité. Je le sais, on vous entendait dans le journal dire par exemple que vous ne comprenez plus les partis politiques actuels, vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent, vous vous demandez d'ailleurs qui ça intéresse. Est-ce que notre moment politique actuel pour vous est compréhensible? Par exemple, le fait que depuis 10 jours, nous sommes sans ministre de l'Intérieur titulaire, que ce poste est occupé par le Premier ministre et qu'on attend encore un remaniement, est-ce que cette situation vous paraît normale? Est-ce que pour vous c'est un sujet ou c'est un non-sujet?
Alors, c'est à la fois un sujet et un non-sujet. C'est un sujet parce que nous sommes en période d'insécurité avec des menaces importantes et qu'il faut que les services de police et les gendarmeries qui dépendent de la police, du ministère de l'Intérieur, il y ait un commandement, une autorité. Donc c'est un vrai sujet. Et il ne faut pas laisser cette maison sans direction, sans une direction politique. Alors, c'est un non-sujet parce que la fonction est assumée par le Premier ministre et qu'il est présent et s'il se passe quelque chose, il sera là. Mais ce qui me préoccupe beaucoup dans ce remaniement, c'est qu'on donne l'impression, dans une période, pour les gens qui sont au pouvoir, de baisse de la popularité, on pense qu'un remaniement va changer la courbe de l'impopularité. Non, ça n'a jamais changé les choses. Ce qui change dans la courbe de la popularité des titulaires des fonctions ministérielles, c'est la politique qui suive. Et pour l'instant, vu de l'extérieur, je fais plus de politique, je vois en me promenant en province que cette politique qui est suivie par le gouvernement laisse sceptiques les Français, pour le moins. Alors le drame, c'est que face à le pouvoir actuel, les partis politiques traditionnels ont implosé. La droite, c'est un bateau sans capitaine qui va au gré des marées. Et la gauche, c'est complètement évanescent.
Il a un capitaine, ce bateau de la droite, quand
oui,
même.
Oui, mais le bateau ne répond pas aux ordres du capitaine. Ce qui revient au même. Dans ces cas-là, il ne faut même pas avoir de capitaine. Donc voilà. Et pourquoi? Parce que le discours, me semble-t-il, des partis est un discours complètement égocentrique sur eux. Et ce qui préoccupe les Français aujourd'hui, c'est la pression fiscale. On entend, comme on avait entendu en 1956, une espèce de début d'une révolte fiscale, on en a assez de payer, de payer, de payer, et de ne pas avoir de résultats. Vous pouvez avoir des impôts, mais si ça fait de redémarrer la croissance, on peut comprendre. Là, on n'arrête pas de dire « on baisse la fiscalité ». Et en réalité, vous constatez chaque jour qu'il y a une fiscalité de plus en plus importante. C'est désespérant. Pour les commerçants, artisans, les professions libérales, ça les démobilise. Ce que je veux dire, c'est que les partis se préoccupent de leur organisation, de leur petite soupe, de leur côté, mais ne répondent pas aux vraies questions sur la fiscalité, la sécurité, l'emploi, le chômage, la formation que se posent les Français.
Jean-Louis Debray, vous parlez des partis et de l'égocentrisme des partis. Est-ce que ce n'est pas vrai aussi des individus quand on voit un ministre de l'Intérieur qui démissionne, un président de l'Assemblée nationale qui rejoint un mandat ministériel? D'ailleurs, deux postes que vous avez vous-même occupés. Vous avez, je le rappelle, été ministre de l'Intérieur d'un côté et président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse quitter ces postes pour choisir, disons, des intérêts personnels? D'un côté, un mandat municipal, de l'autre, un mandat ministériel?
Non, je ne comprends pas. Mais c'est la conséquence du dépérissement de l'autorité de l'État. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes au cœur de l'État. et vous ne quittez pas cet état, surtout dans des situations comme aujourd'hui, qui sont des situations difficiles avec des menaces, pour aller essayer de reprendre une mairie. Ça ne se, dans mon optique, ça ne se comprend pas. Deuxièmement, quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, la Constitution a dit que le président était élu pour 5 ans. Vous faites au moins 5 ans pour assurer la continuité et l'autorité et le prestige de l'Assemblée nationale, mais au gré des envies, des humeurs, on change. Non, ça montre bien ce qui est dans le fond de ce qui se passe en France, comme dans d'autres pays, c'est l'effondrement de la notion d'État. Toute la Ve République avait été fondée sur l'autorité de l'État, l'autorité des représentants de l'État qui devait être assurée de durée. Or aujourd'hui, c'est plus le cas, et c'est ce qui préoccupe les Français. Ils ont le sentiment que les hommes politiques se préoccupent plus de leur avenir personnel que de l'avenir de la France.
On vient de célébrer le 60e anniversaire de la 5e République, dépérissement de l'autorité de l'État, dites-vous, Jean-Louis Debré. Est-ce que pour vous, c'est une crise gouvernementale à laquelle on assiste ou une crise de régime ?
C'est une crise de la société. Aujourd'hui, on refuse, et ceux qui devraient inculquer cela, on refuse l'autorité, on refuse la continuité dans l'effort. Tout, on zappe, c'est à l'image de notre société, on zappe, on change, on revient, on repart. On veut même modifier la Constitution. On veut même modifier.
C'est pas la première fois qu'on le fait, hein. Ce sera la 25e révision.
24e révision, ça sera la 25e. Il y en a au moins une quinzaine qui étaient là parce qu'il y a eu une évolution des pays africains et malgaches qui étaient sous domination, c'était la communauté. Il y a eu 3 grandes modifications. Il y a eu le quinquennat, mais ça, voilà, très clairement, à mon point de vue, une erreur. Car au nom de la modernité, au nom de la nouveauté, au nom de je ne sais pas quoi, la droite et la gauche s'est unie pour faire réaliser cette réforme. Elle avait été souhaitée par Pompidou, inscrit dans les 110 propositions de Monsieur Mitterrand, souhaité par Monsieur Giscard d'Estaing une fois qu'il avait fini son septennat, proposé par Lionel Jospin candidat et réalisé par Chirac. La droite et la gauche, au nom de la modernité, c'est-à-dire au nom d'un mandat plus court pour permettre à plus de titulaires de faire cette fonction, d'assumer cette fonction, on a fait une erreur. De même, lorsque on a fait la session unique du Parlement, le Parlement siège tout le temps, donc du coup une multiplication des lois, tout le monde s'y est mis au nom de la modernité. Méfions-nous des fausses modernités. Voilà, donc
elle est parfaite, cette 5e constitution.
Je sais pas, madame, je sais pas si elle est parfaite, mais quand elle est née, on a dit qu'elle ne survivrait pas à De Gaulle. Parfait, elle a 65 ans. Elle a traversé, elle a subi 8 premiers ministres, 8 présidents de la République.
Et elle n'a 23, que 60 ans, vous 23, lui donnez 5 ans de plus.
23 chefs de gouvernement, 1407 ministres, 15 assemblées parlementaires. Elle a traversé des cohabitations, des changements de majorité, des crises 68, et elle est toujours là.
Est-ce que vous pensez que c'est ce qui protège aujourd'hui un Emmanuel Macron, dont on dit qu'il est affaibli et dont vous dites, vous, que l'autorité de l'État est en train de dépérir?
Écoutez, je pense qu'il doit tous les jours mettre un cierge à la Constitution, parce que c'est elle qui lui permet encore d'avoir du pouvoir, de ne pas être contesté. Il a été élu au suffrage universel, il incarne une certaine culture de l'État, et il n'est pas contesté. D'ailleurs, attention à ce que la réforme des institutions, en faisant aller le président de la République à Versailles, en voulant qu'il réponde aux questions des députés, etc., on arrive progressivement à sa mise en cause de sa responsabilité politique devant le Parlement. Or, le président de la République n'est responsable que devant les Français.
Introduire, Jean-Louis Debré, plus de parlementarisme dans cette Constitution et dans cette République dont on dit qu'elle est monarchique, dont certains pensent qu'elle est monarchique, ça n'est pas une bonne chose pour vous ?
Je ne sais pas ce que c'est que
un pouvoir vertical, plus de parlementarisme. Un pouvoir central.
Ce que je constate simplement, madame, c'est que nous avons connu, c'est trop jeune, moi aussi, la 3e République, la 4e, plus d'une vingtaine de gouvernements en 11 ans. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on changeait de gouvernement.
Ah, 7 ministres qui quittent le gouvernement depuis 15 mois, mais pas loin de l'instabilité gouvernementale.
Non, 7 ministres, il y en a une vingtaine de ministres. Sous la 4e République, 11 gouvernements, non plus, une vingtaine de gouvernements en 11 ans. C'est-à-dire que tous les 6 mois, il n'y avait plus de politique. Il n'y avait plus de politique. La France était à la remorque des États-Unis. La France a été incapable de régler clairement le problème de l'Indochine, incapable de voir la menace et le début de la guerre d'Algérie qui a commencé en 1954. Il a fallu rappeler De Gaulle pour s'arrêter. La France n'était plus gouvernée. Et c'était la conséquence de ce qu'on appelait plus de parlementarisme. Alors, il faut savoir ce que l'on veut. Les Français, me semble-t-il, ils veulent être dirigés, que ceux qui ont la responsabilité du gouvernement de la France aient une politique lisible, qui leur permette, non pas de désespérer de ne pouvoir espérer, mais d'espérer un renouveau et une relance de l'économie et de la société. Voilà. Attention à ces réformes qui consistent à se faire plaisir. Je pense, par exemple, on veut introduire la proportionnelle. Parfait, très bien. Mais regardez ce qui se passe. En Italie, l'application de la proportionnelle a abouti à la pagaille que vous avez aujourd'hui. Et en Allemagne, qui n'est pas la même chose exactement, la proportionnelle a abouti à ce que Mme Merkel n'arrive plus à gouverner. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Les hommes politiques en France rêvent de la 4e République, où ils étaient tous ministres. Il y avait 200... les crises ministérielles faisaient que vous aviez une chance d'être ministre. C'est beau d'être ministre, c'est bien d'être ministre. Ça, sur le papier à lettres, ça fait remarquable. Il n'y a que moi qui ne mets pas... vous avez rappelé que j'étais ministre, j'avais même oublié. Donc, si vous voulez... on veut revenir dans ces crises ministérielles. Et on veut revenir sur un principe qui est l'Assemblée nationale n'est pas là pour gouverner à la place du gouvernement, elle est là pour voter la loi et contrôler l'action du gouvernement.
Certains aujourd'hui vous parlaient de ce que veulent les Français, ils veulent être dirigés d'une main de maître. C'est pas vous qui l'avez dit, hein, c'est moi qui le reprends à mon compte. En même temps, on voit surgir depuis quelques années, et ça c'est l'effet de l'évolution de la société, pas peut-être notre modernité, une envie d'horizontalité, pour le dire autrement, d'introduire une dose de démocratie, pas forcément de proportionnelle ni de parlementarisme, mais d'être mieux représenté, d'avoir son mot à dire, et la représentativité du Parlement est importante de ce point de vue-là, Jean-Louis Debray.
Il y a toujours eu dans l'histoire politique française un antiparlementarisme, et on a toujours vu que les gens, nos concitoyens, avaient généralement un peu de mal à aller voter. Il y avait un développement de l'abstention. Et donc, ce que souhaitent les Français, pour reprendre le chemin du parlementarisme, pardon de vous dire, c'est pas ce que vous souhaitez.
Ah, moi je souhaite rien. Mais en tous les cas, ça n'intéresse personne.
Si, mais ça m'intéresse. Avec la médiatisation de la vie politique, qu'on ait des comportements d'élus qui soient irréprochables. Et c'est ça que condamnent les Français. Alors, vous me direz, sous la 3e, sous la 4e République, il y a toujours eu... Oui, mais aujourd'hui, on vit dans un autre régime qui est la médiatisation de la vie politique. Et le drame des politiques, me semble-t-il, vu de là où je suis, c'est très loin, c'est qu'ils ne sont plus dans l'action, ils sont dans la réaction. Ils réagissent plus qu'ils n'agissent. Et ils sont... Vous savez, je cite toujours, lorsque j'étais président de l'Assemblée, j'avais interdit dans l'hémicycle, j'avais brouillé l'hémicycle. Donc ils n'avaient pas leur portable, ils n'avaient pas leur téléphone. Ils étaient face à eux-mêmes. Là, regardez les séances, ils sont tous en train de jouer avec leurs ordinateurs, ils sont tous en train d'envoyer des tweets. Ils ne participent plus à la délibération. Et l'image qu'ils véhiculent, ce sont des images d'hommes ou de femmes politiques qui n'essayent pas de convaincre de leurs idées, mais qui se suivent l'air du temps. Et ça, je suis persuadé que les Français en ont assez. Arrêtons d'être dans la réaction. Ils veulent l'action.
Bon, je vais pas vous demander de réagir alors à la revue de presse qui va suivre, mais ni d'agir, peut-être de penser, de réfléchir, de nous aider à penser aujourd'hui. Jean-Louis Debray, restez avec nous, il est 8h30 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi,
Caroline Bouvet. La revue de presse de Natacha Triou, c'est des articles à lire dans la presse ce matin et c'est d'autres plus fouillés que l'on pourra lire ce week-end puisque normalement nous avons plus de temps. Bonjour Natacha.
Bonjour Caroline.
On commence avec le départ annoncé hier du leader de l'aile gauche du Parti Socialiste Emmanuel Morel. Ils n'ont pas eu le temps, les journaux, d'intégrer le départ de Marie-Noëlle Lienemann. Mais en tous les cas, l'annonce du départ d'Emmanuel Morel est dans toute la presse ce matin.
Le PS bat de l'aile gauche, titre aujourd'hui Libération. Emmanuel Morel est l'un des membres historiques du parti, 25 ans d'adhésion, il devrait rejoindre la France insoumise pour les européennes de mai 2019. Alors comme le rappelle Libé, une grande partie des troupes de la gauche socialiste a déjà mis les voiles dans le sillon de Benoît Hamon. Dans son entretien accordé au Monde ce matin, Emmanuel Morel parle d'une hypocrisie au sein du parti. Il déclare « Je ne veux pas être OPS le jour où il réinvestira François Hollande comme candidat. La Hollandie a fait la courte échelle à Emmanuel Macron, il est leur créature. » Selon Mediapart, je cite, l'événement est à lire comme un épisode supplémentaire de l'effondrement du PS qui n'en finit pas de se déliter. Pour le Parisien aujourd'hui en France, c'est une bonne nouvelle pour les insoumis qui, dans ce contexte, apparaît comme le seul pôle attractif à gauche. Alors avec un certain sens du timing, le journal Le 1 consacrait son numéro de mercredi à cette question, comment faire renaître la gauche? Et quant à nous sur France Culture, lundi dans sa matinale, Guillaume Erner abordera cette question, le Parti Socialiste va-t-il devenir un groupuscule?
Comme quoi il n'y a pas que Le 1 qui a le sens du timing et pardon pour ce néologisme à la fin du sommet de la francophonie. Ce week-end se poursuit les rendez-vous de l'histoire de Blois dont France Culture est partenaire. Hasard du calendrier, les programmes d'histoire de lycée, et ça va intéresser notre invité, sont aussi discutés en ce moment par le Conseil supérieur des programmes.
Mais ce qui n'a pas échappé à Laurence Decocq, l'historienne et essayiste, est intervenue plusieurs fois dans la presse cette semaine. Elle revient sur les enjeux politiques de l'enseignement de l'histoire dans le secondaire. Dans son analyse pour AOC mardi, pourquoi les programmes d'histoire déchaînent-ils tant de passion? Elle rappelle qu'à partir de la fin du 19e siècle, la discipline a été un outil patriotique. L'heure était à la construction d'un sentiment national, l'histoire était alors mise au service d'une passion pour la grande France. C'est ce que l'on appellera plus tard le roman national. Après la Première Guerre mondiale, on interroge le rôle des programmes d'histoire dans la diffusion d'un esprit guerrier. Après la Seconde, c'est la responsabilité de l'école dans la banalisation du racisme qui est soulevée. L'enseignement de l'histoire s'accompagne de vifs débats dont la teneur révèle en creux les enjeux politiques les plus saillants du moment. 2018 n'échappe pas à la règle.
Et pour comprendre mieux comment l'histoire, la discipline a été renouvelée, justement, on peut renvoyer nos auditeurs à Libération de jeudi, le Libé des historiennes.
Oui, le Libé des historiennes avec le long et passionnant entretien avec Michèle Perrault, la pionnière de l'histoire des femmes et des classes populaires, hein, Michèle Perrault, que l'on retrouve également dans les pages débat du Monde de vendredi.
La semaine de la pop philosophie a ouvert ses portes hier à Marseille avec pour thème cette année l'indifférence. Dans l'Humanité, son numéro de week-end, il y a deux pages. Quatre philosophes et une question. Comment résister à la mondialisation de l'indifférence?
La mondialisation de l'indifférence, c'est une expression empruntée au pape François lors de sa visite à Lampedusa. D'ailleurs, une photo très pertinente illustre cet entretien croisé. On y voit sur une plage un réfugié à genoux avec à l'arrière des vacanciers sur des serviettes. Pourquoi l'indifférence prolifère-t-elle à échelle globale? Peut-être parce que la mondialisation elle-même génère de l'indifférence, nous disent les philosophes. Dans l'intensification des circulations des biens des hommes, dans l'avalanche d'informations, le flux est tout simplement un facteur d'indifférenciation. Il n'empêche que ne pas venir en aide à autrui est un crime, selon Guillaume Leblanc. Et sur la question des réfugiés, c'est une crise de notre rapport à l'autre, à l'étranger sous toutes ses formes. Il faut, selon eux, repolitiser l'hospitalité sur les bases d'une appréhension de l'égale valeur de toute vie.
Merci Natacha Triou. À tout de suite. Jean-Louis Debré, pas sûr que vous ayez envie de dire un mot sur l'état du Parti Socialiste, mais l'indifférence ou les programmes de l'histoire, ça se doit vous intéresser.
Oui, et je suis très frappé parce que on n'enseigne pas l'histoire. Alors c'est vrai que l'histoire...
Enfin, on l'enseigne quand même.
Oui, mais on l'enseigne pas comme il faudrait le faire. C'est vrai que l'histoire a été présentée souvent avec des finalités politiques. Mais c'était pas une petite cause, car la République, elle s'est imposée en France grâce aux instituteurs de la République qui ont enseigné les valeurs de la République. Et c'est très important pour donner à chaque jeune la distance par rapport à l'événement. Je vais prendre un exemple. On parle, et je ne prononce pas sur le fond, je pourrais me prononcer sur le fond si vous voulez, le problème de la PMA. C'est un vrai problème de société. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'histoire de la France, les arguments de ceux qui sont contre la PMA sont exactement les mêmes arguments qu'ils ont lancés lorsque on a donné aux enfants légitimes et aux enfants naturels, adultérins les mêmes droits que les enfants légitimes. Et c'est les mêmes arguments, exactement au mot près, qu'on a lancés lorsque on a voulu introduire le divorce et dépénaliser l'adultère en montrant que l'adultère est une rupture de contrat et il faut dépénaliser. Autrement dit, je veux dire que les questions qui nous sont soumises sont des questions très importantes. Regardons avec du recul comment les questions voisines ont été traitées, les arguments qui ont été évoqués à l'époque et leurs conséquences.
Connaître l'histoire de France pour mieux comprendre le présent, c'est précisément ce que vous cherchez à faire avec certains de vos ouvrages, et notamment celui qui vient tout juste de paraître, Jean-Louis Debré, « Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France ». Alors vous avez déjà écrit un livre il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait « Les oubliés de la République ». Comment avez-vous construit celui-ci par rapport au précédent?
Il y a trois livres. Il y a Les Oubliés de la République, et là, c'était d'autres personnages importants, personnage qui a été le premier défenseur de l'environnement, le personnage qui a créé les boîtes aux lettres. C'était la petite histoire. Puis j'ai écrit un deuxième ouvrage qui s'appelle « Ces femmes qui ont réveillé la France », et là, je montre que le rôle des femmes a été essentiel. La première femme bachelière, Julie Victoire d'Aubier, que personne ne connaît, qui a été la femme qui a permis aux femmes de rentrer dans l'enseignement supérieur. La première femme journaliste, Marguerite Durand, qui a créé non pas un journal où on apprenait à tricoter et à faire la cuisine, mais à réagir sur la politique, sur l'économie, etc. Et qui a été... le journal est tombé en désuétude à cause des hommes. Bon... Premier livre, ces femmes qui ont enlevé la France. Deuxième livre, je veux trouver un certain nombre de personnages qui sont inconnus, on les a oubliés.
On parle quand même Philippe Séguin, Lucien Neuwirth, Jacques Chaban-Delmas, Robert Schuman, Pierre Mendès-France, on les a pas oubliés.
Ben écoutez, vous les connaissez. Mais moi je fais les collèges et les lycées. On ne les connaît pas. Parfois on le nom dit quelque chose. Mais pour la structure de la société. René Viviani, totalement oublié, et pourtant, c'est celui qui est à l'origine, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la dépénalisation de l'adultère, à l'origine de toutes les grandes lois sociales, et à l'origine de la possibilité pour les femmes de devenir avocats. Car nous sommes à l'année 1890, et une femme se présente devant la deuxième chambre de la cour d'appel de Paris pour prêter serment, tout le monde s'en va. Les magistrats, les avocats, et l'avocat général reste et dit « Madame Chauvin », c'est son nom. « Jamais vous serez avocate ». Pourquoi, monsieur l'avocat général? Parce que les femmes n'ont pas accès au raisonnement juridique. Alors passez votre chemin. Et il a fallu un député courageux qui a déposé une proposition de loi pour impérativement permettre aux femmes de travailler. Et je me souviens d'un discours au Sénat, à l'époque, où le sénateur, dit « Mais attention, messieurs, la politique, c'est quelque chose de très sérieux. Si vous rentrez à la maison, que le poulet sera trop cuit. » Ces hommes, Viviani, René Cassin...
Léon Bourgeois, Charles Baranger, Ferdinand Buisson...
Ils sont à l'origine de l'architecture de notre société et on les a oubliés.
Ce qui les lie, c'est une idée plutôt haute, en général, de la République.
Oui, ce sont des hommes... comme les femmes dans « Ces femmes qui ont enlevé la France », qui ont une haute conception de la politique. La politique, c'est pour amener le progrès et le bonheur. Et ils ont une culture tout à fait exceptionnelle et ils poussent des projets précis. Ce sont des personnages tout à fait exceptionnels qui ont structuré notre société. J'ai interrogé un jour des jeunes sur René Cassin, qui était à l'origine de la grande déclaration des droits de l'homme. Personne ne le connaît. Il y a des lycées, il y a des collèges, il y a des rues, René Cassin. J'étais il y a quelques jours au lycée d'Aubernais. Et au lycée de Bernay, sur la place, près de la mairie, il y a un grand buste de Monseigneur Frépel. Donc je demande aux enfants, c'est qui ? Ils ne savaient pas. Ils passent devant, c'est l'indifférence de notre société.
On y revient.
Et pourtant, c'est une époque, c'est le dernier évêque député de l'Assemblée nationale. Et pas très loin, à Pontarlier, vous passez, vous dites, qui est Philippe Grenier ? Personne ne sait. C'est le premier député musulman qui est arrivé à l'Assemblée nationale, Angela Ba, et montre bien.
Et dont vous faites le portrait dans Nos Illustres Inconnus.
Ce sont des hommes, on n'est pas forcé d'adhérer à leurs idées, on n'est pas forcé de les suivre, mais ils ont cherché à transformer notre société et souvent ils sont arrivés. Quand on parle de Lucien Neuwirth, personne ne le connaît, vous le connaissez madame. Et pourtant, le combat qui a été le sien pour permettre aux femmes d'être maîtres de leur sexualité et de leur grossesse, a été un combat qu'il a mené seul au départ, et il est arrivé au bout, c'était sous la Ve République, c'est pas très longtemps. Quand je parlais tout à l'heure de la reconnaissance aux enfants adultérins et naturels, des droits identiques aux enfants légitimes, mais c'est la Ve République, c'est Pleven, et c'est un grand professeur de droit qui est derrière lui.
Donc vous
c'est...
allez distribuer Nos Illustres Inconnus, Jean-Louis Debray, dans les collèges, dans les lycées.
Mais madame, c'est mon bonheur aujourd'hui, que je ne fais plus politique, c'est d'aller régulièrement dans les lycées, collèges, quand on m'invite, pour parler de ces personnages, et pour montrer que la politique, c'est pas simplement occuper des... On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pas simplement occuper des postes, changer en fonction de ses convenances personnelles, c'est porter des idées. Et aujourd'hui, ce que je trouve, et ça revient à votre sujet précédent, sur la crise des partis politiques, c'est qu'ils ne portent plus de projets lisibles. Ils ne portent plus de projets lisibles.
Ce sont les derniers mots de la conclusion, hein, à propos de ces hommes qui, je vous cite, avaient des convictions, les défendaient même si elles n'étaient pas dans l'air du temps. Sachons aussi, écrivez-vous, en ces périodes troublées, agitées, confuses, sortir du conformisme, de l'immobilisme et de la répétition pour, comme ces personnalités de notre histoire, nous adapter aux défis du monde actuel. C'est vrai que ça sonne comme une adresse à notre personnel politique.
Je donne de leçons à personne, mais...
J'ai dit adresse.
Oui, si vous voulez, mais... Vous savez, moi j'ai commencé ma carrière comme étant magistrat, longtemps, juge d'instruction, puis j'ai fait de la politique et je suis volontairement sorti de la politique. Et j'aime mon pays, j'aime la République, je suis un enfant de la République. Ma famille est une petite famille d'Alsace qui a choisi en 1870 de rester républicaine et de choisir la France. Et je veux pas qu'on abîme la République. Et la République, c'est ce qui nous rassemble. Vous savez, Renan disait, la nation, la République... C'est un rêve d'avenir partagé. Continuons à partager ce rêve de la République.
Ernest Renan, qui est également dans votre ouvrage. Jean-Louis Debray, votre livre est divisé en quatre parties qui ne me semblent pas anodines. Liberté, égalité, fraternité, liberté de conscience et laïcité, la France et ses institutions, l'Europe. L'Europe, c'est la quatrième et dernière partie. Est-ce que c'est un symbole à quelques mois des élections européennes ?
Juste une petite remarque. D'abord, sur la laïcité, c'est fondamental. On n'enseigne pas assez la laïcité. La France a une chance inouïe, c'est la loi de 1905. Et aujourd'hui, ceux qui attaquent la France, c'est pour mettre à mal la laïcité. Et donc, dans tous les lycées, collèges où je vais, je parle de cette laïcité. La laïcité, ce n'est pas l'État qui se désintéresse des religions. C'est l'État qui permet à chacun et à chacune d'entre vous de choisir la religion qu'il souhaite ou de ne pas en avoir. L'Europe, oui. L'Europe, c'est essentiel parce que on ne peut... Si on refuse l'Europe, on revient à un sorte de nationalisme et on sait où le nationalisme ont amené les pays européens, et notamment la France et l'Allemagne. Donc l'Europe est une chance. Mais construisons la vraie Europe. Faisons que l'Europe soit lisible. Je suis très frappé. L'Europe, elle est capable de nous mettre toutes les voitures à la même plaque d'immatriculation. L'Europe, elle est capable de mettre toutes les phares des voitures de la même couleur. Mais quand un pays comme le Portugal prend une législation qui porte atteinte à la législation française sur la fiscalité, quand l'Europe est incapable d'avoir une fiscalité unique et que certains pays profitent des autres pour attirer les gens qui ont de l'argent, l'Europe est incapable d'avoir une législation du travail unique. quelle Europe ?
Une politique migratoire aujourd'hui ?
Et une politique migratoire. Autrement dit, l'Europe, elle se perd aujourd'hui parce qu'on a le sentiment que les Européens s'occupent des petites affaires, la lumière des voitures, les matriculations. Mais les grands défis, le défi de la fiscalité, le défi de l'émigration ou les défis du droit du travail, alors là, on ne veut pas intervenir.
Allez, restons sur les grandes choses avec vous. Alors, Jean-Louis Debré, c'est le dernier quart d'heure de ces matins du samedi. Vous êtes également un homme de culture. Restons sur les grandes choses, la littérature, la gastronomie, la musique. 8h46 sur France Culture.